Un appareil d'État intact, les notables protégés, une épuration extrêmement limitée, c'est le tableau étonnant, pour ne pas dire sinistre, dressé par l'historienne Annie Lacroix-Rise, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, dans son nouveau livre « La non-épuration en France de 1943 aux années 50 ». Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui cette historienne, briseuse de mythes, tenue en lisière des médias traditionnels depuis fort longtemps pour un quartier libre consacré aux mensonges de l'après-guerre. Bonjour Annie Lacroix-Rise.
Bonjour Antoine.
Alors, vous soutenez dans ce livre, dans cette véritable somme, que l'appareil d'État, l'appareil de justice, l'appareil de police française est resté quasiment intact après la libération, contrairement à tous les mythes généreusement répandus sur la question autour de l'épuration. Je vous pose tout de suite la question, sur quelles archives nouvelles, sur quels faits vous appuyez-vous pour dire cela ?
Alors en ce qui concerne l'appareil d'État, et en particulier celui de la magistrature, qui est resté intact, on ne peut même pas dire pratiquement intact, il faut dire totalement intact. Et ce, au contraire de ce qui circule, parce que beaucoup de mes collègues ont dressé un portrait sur la transformation assez profonde de cet appareil. Les sources sont très simples. Il s'agit des sources des fonds de justice. La source BB18, qui est la source du ministère et en particulier de la chancellerie, c'est-à-dire de l'appareil de direction du ministère, et qui sont une source absolument extraordinaire, qui est monstrueuse, évidemment, je ne l'ai pas entièrement dépouillée, mais je l'ai quand même dépouillée pendant plusieurs années. Et puis la source BB30, qui est aussi une source du ministère de la Justice, et qui est centrée autour des premiers ministères. Il faut bien dire que je me suis d'ailleurs arrêtée à cela, mais ça s'arrêtait à 1948, parce que les choses sont faites bien avant 1948. Et alors là, on a un fonds qui vient compléter le précédent. C'est bien simple. Ce fonds mettrait, je dirais, dans le désarroi n'importe lequel de ses lecteurs. Moi, je fais de la recherche depuis 49 ans. J'ai tout vu, je n'ai vu que des horreurs d'ailleurs, ce qui me rend peu présentable par les moyens d'information habituels, selon lesquels tout va bien et ça ira encore mieux demain. Et par conséquent, on pourrait penser qu'il est difficile d'être surpris. Eh bien là, j'ai été surprise. J'ai été surprise et je dois dire qu'on a la chance à la fois d'avoir un appareil énorme et puis en plus extrêmement divers parce que, si vous voulez, ça porte autant sur la femme passée par une instance d'instruction tendue ou pas tendue, mais manifestement qui s'est fait connaître de 1940 à 1944 par des activités pro-germaniques qui ne se sont pas bornées à une station horizontale, jusqu'à toutes les éminences. Il y a Schuller, il y a le I2, ils y sont tous. Et vous vous apercevez que rien ne bouge et que le pire des magistrats, celui qui a livré ce que les gaullistes appelaient les patriotes au bourreau, et jusqu'au dernier moment, il faut savoir qu'une partie très importante de la magistrature jusqu'à l'été 1944, jusqu'en août 1944, fait des ronds de jambes devant les Allemands. Et quand je dis des ronds de jambes, c'est presque inimaginable. Je donne quelques exemples dans à peu près tous les dossiers que j'ai vus. Les magistrats qui ont connu une remarquable promotion, soit sur place, soit avec petit déplacement, parce que dans telle région, leur maintien posait de véritables problèmes d'ordre, ces gens donc C'est-à-dire que des magistrats étaient connus pour avoir livré un paquet de résistants, en particulier, bien entendu, des militants FTP, aux bourreaux, et ce, jusqu'au dernier moment, ça était connu pour leur relation maintenue jusqu'au bout avec les Allemands, pour avoir livré des dossiers. Je le répète, c'est inimaginable de noirceur. Et comme... ma foi, ces gens-là, on les trouve fort bien, parce qu'on va leur faire finalement assumer la même mission que celle qui a été assumée avant-guerre, pendant la guerre et après-guerre, c'est-à-dire une mission de répression des gens d'en bas. Et bien entendu, c'est quelque chose qui ne nous est pas accessible actuellement, en tout cas dans les médias, parce qu'on nous explique que la justice est souveraine. J'ai entendu encore la garde des Sceaux sur une grande radio publique hier nous expliquer que le parquet était indépendant et qu'elle n'examinait aucune instruction. Je demanderais volontiers à la garde des Sceaux de nous sortir les papiers de la chancellerie, mais je puis vous dire que les petites notes manuscrites de la chancellerie m'ont administré le coup le plus sérieux que j'ai enregistré, je crois, depuis le début de mes recherches. Donc ces gens, s'ils ne restent pas là, ils s'en vont ailleurs, en général promus. Ah, dira-t-on, mais enfin, on a mis à la retraite certains, on les a mis en retraite sans pension. Ben, quand on les a mis en retraite, en général, ils l'avaient dépassé ou ils l'avaient presque atteinte. Et bien entendu, quand ils ont été mis à la retraite sans pension, la pension a été rétablie très vite.
Alors, vous évoquez effectivement dans le livre, outre un sabotage délibéré d'enquête, après-guerre, un dessaisissement des cours de justice ayant eu la main un peu trop lourde, ayant prononcé des peines sévères. Et vous parlez de véritables provocations dans certains cas, notamment à l'égard des déportés, qui commencent à rentrer début 45 et qui se retrouvent face à des criminels.
Alors là, on ne peut même pas imaginer, dois-je dire, c'est presque encore plus inimaginable que ce qui précède. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que ça a été classé par nombre de mes collègues dans l'abominable épuration sauvage qui aurait, dit une de mes collègues, mis la France dans une situation de terreur, de guerre civile. C'est un portrait absolument abominable. Eh bien, en réalité, dans cette France à feu et à sang, il y a, en 1944, dans les derniers combats de la libération, juste après la libération, il y a des instances, d'abord des instances provisoires, qui sont des instances se prononçant en plein combat. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de savoir si on va traduire quelqu'un pour son attitude pendant toute la guerre et son enrichissement. Il s'agit vraiment de saisir des gens qui servent d'auxiliaires aux Allemands. Et il y a des condamnations à mort. Quelques-unes sont appliquées, la plupart ne seront pas appliquées parce que très vite, évidemment, se met en place ce qu'on appelle une légalité. Voilà, l'État gaulliste serait un État de droit qui établit la légalité. Je n'entre pas dans les détails. À l'automne 1944, se met très lentement en place le système des cours de justice. Ces cours de justice prennent des mesures. Certaines prennent des mesures sévères, quelques décisions d'exécution. Alors, c'est très ennuyeux pour la chancellerie, mais il faut être honnête et ne pas rester à 1944. Cette chancellerie, je dirais qu'elle a été chauffée ou préparée par des décisions antérieures. Et en particulier, évidemment, et c'est pourquoi j'y ai consacré un chapitre, tout a été décidé à Alger. L'épuration ou la non-épuration ne commence pas en France à partir de la libération de Paris. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'à partir du moment où on a des cours de justice, eh bien l'État de De Gaulle avec son inspecteur général de la justice, qu'on nous érige en grand résistant, le suprême résistant de la haute magistrature, c'est-à-dire Maurice Roland. Maurice Roland, il arrive à Londres début 1944. Il commence à prendre ses précautions fin 1943. Fin 1943, il s'occupe encore de faire condamner du communiste du FTP à tour de bras. Alors, je dois dire, je crois avoir démontré dans d'autres ouvrages que Maurice Couve de Murville est un représentant qu'il est très difficile aujourd'hui de qualifier de grand résistant. Il a été le deuxième personnage des finances de Vichy, et quand je dis le deuxième personnage des finances de Vichy, c'est un personnage à la direction des finances extérieures de la France qui a participé à toutes les opérations avec l'Allemagne, toutes les opérations de capitaux, l'aryanisation, la vente, le système des sociétés mixtes, tout. Il n'y a pas une opération importante que j'ai étudiée dans Industriel et Banquier qui lui a échappé. Et j'insiste d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, on en parle beaucoup, c'est une sorte de critère, l'aryanisation comprise, c'est-à-dire la spoliation des biens juifs. Et donc, de mars 1943 à juin, 9 juin 1943, Maurice Couve de Murville, le deuxième personnage des finances de Vichy, je dirais une des clés de la collaboration à tous égards de l'Allemagne, avec l'Allemagne, se retrouve chez De Gaulle. Me direz-vous, alors à un poste bien diminué? Pas du tout, comme premier secrétaire aux finances. Mars 43, Maurice Rolland, novembre 43, il paraît qu'il aurait disparu de chez lui et il rejoint Londres en 44. C'est un des plus tardifs, je dirais, de l'ensemble de l'appareil d'État, justice exclue. C'est celui qu'on nous présente comme un grand résistant. C'est celui qui nous dresse de ses collègues un portrait assassin à l'automne 1944, seulement au début
de ses collègues,
juristes, magistrats, puisqu'il va faire des inspections. Et qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort que dès novembre, il félicite le secrétaire à la justice, l'ancien commissaire à la justice de Gaulle à Alger, c'est-à-dire le MRP François de Menton. Il le félicite grandement parce que le 28 novembre 1944, François de Menton a eu une idée de génie pour violer toutes les décisions légales des premières cours de justice. Il s'agira soit de refaire passer l'affaire devant un jury autrement composé, soit, ordonnance du 28 novembre 1944, de déplacer l'affaire et de la transférer dans une région où on ne connaît pas l'assassin.
Les exploits, voilà, de l'homme.
Et voilà comment ça s'est fait de façon systématique. Et c'est ce que mes collègues appellent une rénovation de l'appareil de justice.
On va reprendre avec méthode un petit peu le déroulé de cette non-épuration. Alors, d'abord, pratiquement, qui a pris ces décisions?
Oui.
Et qu'est-ce qui a présidé très tôt, d'après ce que vous dites à l'instant, à la décision de protéger finalement les hauts fonctionnaires et les cadres ayant activement collaboré?
Je dirais tout un chacun, parce que ça ne s'est pas borné aux représentants du grand capital, ça ne s'est pas borné à leurs auxiliaires directs, qu'ils soient politiques, administratifs, aux cadres, etc. Ça a concerné tout un chacun. Alors, je dirais qu'il faut se rappeler une chose qu'on ne se rappelle pas assez, bien que pourtant, dans la période actuelle, tout nous le rappelle, c'est-à-dire que la France est dans la zone d'influence américaine. Elle le sera. Elle le sera clairement. C'est affecté, je dirais, depuis 1940-1941, à l'époque où, d'ailleurs, un militaire vichiste, juillet 1941...
En dépit des postures gaullistes.
Bien sûr, en dépit des postures. Vous savez bien qu'on ne fait pas de l'histoire avec des textes officiels ou avec des proclamations officielles qui n'engagent que ceux qui les croient. On fait des textes avec des sources qui ne sont pas destinées à la publication. Et c'est le travail des historiens que de consulter ces sources. Par conséquent, je fais mon travail. Et que dois-je constater? Eh bien, d'abord, je dois constater que tout le monde s'est retrouvé d'accord dans les élites, les collaborationnistes les plus nombreuses, les non-collaborationnistes ou résistantes, je dirais qu'on trouve à l'état de trace autour de Gaulle, En 1941, tout le monde s'est de fait trouvé d'accord, explicitement ou pas explicitement, sur le fait, en juillet 1941, que la guerre était perdue pour les Allemands. Comme la guerre était perdue pour les Allemands, le général doyen de la commission d'armistice avait dit à Pétain, c'est très simple, il va falloir s'habituer au fait que les Américains ont été certes les grands vainqueurs de la Première Guerre mondiale, tiens, on ne nous l'avait pas dit, et qu'ils seront les vainqueurs, toute catégorie, de la Deuxième Guerre mondiale, et que nous devrons, pendant des décennies, nous plier à leur desiderata. Ah, vous imaginez bien comment, en juillet 1941, tout ça est assez délicat, étant donné la position où sont nos gouvernants. Je dirais même la position où est De Gaulle, parce que De Gaulle est détesté des Américains. Les Américains le haïssent autant que les vichistes haïssent De Gaulle, qui l'ont même condamné à mort. Mais De Gaulle, lui, sait très bien que, bien entendu, la France fera partie de la zone occidentale. Il faut quand même savoir qu'une partie de la guerre, c'est aussi la réflexion sur la base du rapport de force militaire, sur le fait de savoir si les États-Unis posséderont toute l'Europe ou s'ils n'auront pas toute l'Europe et si l'Union soviétique pourra avoir un petit bout de territoire à peu près sûr qui empêche la montée de l'Allemagne vers elle en passant par la Pologne. C'est ça la vraie question. Et donc, De Gaulle déteste les Américains détestent De Gaulle, mais De Gaulle sait très bien qu'il sera dans la sphère d'influence.
Il fait de la réelle politique.
Voilà, il fait de la réelle politique, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Staline a fait de la réelle politique, tout le monde a fait de la réelle politique. Ça dépend quelle politique on fait, bien entendu. Mais c'est toujours de la réelle politique. Et donc, la question qui est posée est comment on va s'adapter. D'abord, comment les Américains vont finir par accepter De Gaulle. Ils ont beaucoup de mal. Hein. Ils ne finissent par l'accepter. Je dirais que Roosevelt est un de ceux qui résistent le plus, puisqu'il attend quand même octobre 1944 pour le reconnaître. Et puis De Gaulle, c'est un homme de la bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie, qui n'a pas de raison, bien que la grande bourgeoisie le déteste, parce que momentanément, évidemment, elle fait affaire autrement. C'est un homme, évidemment, qui ne veut pas que la France change substantiellement au lendemain de la guerre. On en a fait un extraordinaire rénovateur, mais les sources, évidemment, ne le posent pas comme rénovateur. Les sources le posent en résistant à l'Allemagne, les sources le posent en résistant aux desiderata américains, mais les sources le posent aussi en terrible conservateur, dont tout l'entourage est cagoulard. Je dois vous dire d'ailleurs que j'ai le soupçon de ne pas avoir trouvé de choses parce que beaucoup de choses ont disparu, mais je ne connais pas quelqu'un de l'entourage de De Gaulle qui ne soit pas cagoulard, y compris à Londres, puisqu'il a un entourage d'extrême droite à Londres, tellement d'extrême...
Donc, ce que vous êtes en train de dire, oui. C'est que finalement, la conviction personnelle de De Gaulle au sujet de la non-épuration, elle n'est pas entièrement dictée par le réalisme non. Et par la volonté de ne pas déchirer davantage la société française.
Ça n'est pas le problème. Le problème de l'interprétation sans source, c'est que, évidemment, on se trouve toujours, je dirais, des faux-semblants. C'est la guerre froide, c'est les soviets qui ont des mauvaises intentions, c'est les communistes stylés qui suivent les soviets, mais la chronologie n'a rien à voir avec ça. Je reviens à nos affaires. Les Américains, c'est quand même... La France est un terrain d'essai remarquable de la zone occidentale. Parce que les Américains, à partir de leurs des petites pierres qui leur permettent de sauter là où ils doivent aller, ce qu'on appelle les stepping stones, et qui ne participent guère à la guerre militaire, si je puis dire, alors que ceux qui s'indigneront, et j'ai beaucoup de collègues qui s'indigneront, voient quand même les sources. Les Américains sont la force dominante de la guerre, la force économique dominante de la guerre, comme dans la Première Guerre mondiale, mais ils ne sont pas présents militairement. Hein, je rappelle qu'en mai 1944, c'est-à-dire à l'immédiate veille du débarquement en Normandie, le militaire Bétoire, qui est un homme de droite, qui est un cagoulard comme tout le monde, qui a été récupéré par les Américains après avoir été vichiste spectaculaire jusqu'en 1942, fait cette analyse qui est une analyse factuelle, qui est une analyse militaire. Il dit, c'est bien simple, on est en mai 44, les Américains représentent maintenant 6% du front, le front intérieur représente près du tiers. Le front intérieur, dont mes collègues, là encore, je ne citerai personne, c'est cité dans le livre, explique qu'il n'a servi à rien, que c'est un petit bonus pour les Américains qui nous ont libérés. Le front, le fameux front qu'on transforme aujourd'hui en épuration sauvage et en espèces de barbares qui sont allés trucider les notaires, parce qu'ils étaient notaires et châtelains, ça représente près de 35%. Et le reste, c'est-à-dire 60%, on est en mai 44, hein, on n'est plus en 41. Le reste, c'est l'Union soviétique, c'est le front oriental. Donc, on est dans une situation où les Américains doivent passer par la France pour exercer leur action en Europe. Et ou en France, en Afrique du Nord. Mais aucune source et aucun observateur sérieux de la période de la guerre ne pense que les Américains, bien entendu, d'abord jouent un rôle déterminant sur le plan militaire, et surtout, chacun fait l'analyse qu'ils sont en Afrique du Nord, ma foi, à titre, je dirais, de préparatif de leur présence en Europe. Or, qu'est-ce qui se passe ? Les Américains ont pour objectif de débarquer, ce que toutes les élites savent depuis décembre 1940, où Robert Murphy est arrivé à Alger, ont pour objectif de débarquer, le débarquement étant prévu, les Français ne le savent pas, le 8 novembre 1942. Et grâce aux archives américaines publiées, nous savons que Roosevelt a émis des directives de septembre 1942 qui vont servir à Eisenhower, chef militaire, et au chef civil, mais c'est lui qui a la tutelle sur l'Afrique du Nord, de cadre. Au général Marshall est directement sur le terrain, Eisenhower d'un côté et à Murphy de l'autre. Et qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit, car c'est le cadre de l'épuration en France, on leur dit que tout l'appareil de Vichy sera maintenu. Tout l'appareil de Vichy. Civil, militaire, c'est-à-dire cet appareil qui, hors de la présence allemande, a assuré, bien entendu, l'emprisonnement réalisé d'abord par la République des militants communistes évacués sur l'Algérie et qui a persécuté les Juifs d'abondance, puisque la persécution antisémite en Algérie a été effrayante, sans une consigne allemande, bien entendu, les Allemands n'étant pas là. Et par conséquent, le seul critère est le critère du ralliement aux États-Unis. Mais tout le monde est rallié aux États-Unis dans ces milieux. Et il faut même le préciser, on s'occupera du cas des prisonniers politiques, ça se borne largement aux communistes, et des juifs quand on pourra. Et d'ailleurs, le général Marshall, chef d'état-major général, décide que ça n'est quand même pas l'urgence, hein, parce que ça pourrait faire obstacle aux opérations militaires. Donc nous avons, septembre 1942, les consignes américaines.
Alors, la question qu'on se pose forcément en entendant ça, c'est pourquoi les États-Unis et l'Angleterre, d'ailleurs, ont-ils fait le choix de s'appuyer sur les anciennes classes dirigeantes corrompues et compromises ?
Nous sommes très handicapés ces dernières 20 ou 30 années parce que nous renonçons à l'histoire sociale et économique, à laquelle, fort heureusement, beaucoup d'historiens sérieux à l'étranger ne renoncent pas. Quelles sont les relations entre les États-Unis, d'une part, l'Angleterre, d'autre part, et enfin l'Allemagne ? Ce sont des relations de partenariat. Bien entendu, dans le partenariat, au terme d'une crise, il faut bien réorganiser les choses. Et quand vous avez un allié rival et que le rival devient trop gourmand, il faut lui administrer une tapette. Mais on peut ne pas aller au-delà. Alors évidemment, vous savez bien que dans la Deuxième Guerre mondiale, tout est faussé, je dirais, par une représentation postérieure. On veut nous faire croire que les enjeux de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de sauver la démocratie et de se porter au secours des Juifs. On oublie d'ailleurs beaucoup de victimes. Et ce qui est surtout rayé de l'affaire, c'est le caractère de la Deuxième Guerre mondiale commun avec le caractère de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le caractère économique de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis.
Donc il s'agit pour vous d'un projet d'expansion économique avant tout.
Mais c'est-à-dire, moi je l'ai montré dans mes ouvrages, et je ne suis pas la seule à l'avoir montré, puisqu'on l'a beaucoup montré à l'étranger, j'ai montré que, bien entendu, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a une similitude d'objectifs et d'enjeux absolument extraordinaire. Mais pourquoi n'y aurait-il pas une extraordinaire similitude, puisque les États-Unis s'installent vraiment en Europe grâce à la Première Guerre mondiale. Bien entendu, ils ont des relations antérieures, mais je veux dire que c'est la base fondamentale. C'est leur présence, y compris leur présence physique, qui, à partir de la Première Guerre mondiale, est établie. Ils établissent avec l'Allemagne des rapports encore plus profonds que les rapports privilégiés qu'ils ont établis avant 1914. Et qui se sont poursuivis jusqu'à la guerre et dans la guerre, parce qu'on ne le sait pas, chez nous c'est tabou, mais c'est attesté par les sources et c'est enregistré par de très sérieux travaux anglophones. Les États-Unis ont maintenu avec l'Allemagne l'essentiel de leurs relations. Je l'ai montré d'ailleurs moi dans Industriel et banquier en montrant comment les affaires américaines avaient été munies de commissaires allemands spéciaux, les Américains ayant considérablement amélioré, je dirais, leur position en Europe avec les relations avec l'Allemagne. Ils ont financé le réarmement allemand, comme tout le monde d'ailleurs. Ils ont continué à prêter jusqu'à la fin. Et puis, quand il y a eu officiellement ce qu'on appelle l'Enemy Act, la loi sur l'ennemi, qui officiellement, à partir de fin 1941, de décembre 1941, interdit tout contact économique avec l'ennemi, eh bien, les relations ont continué comme devant. Et comment est-ce que les usines allemandes, en mai 1945, repartent les usines d'armement? Je ne donnerai qu'un exemple. La quasi-totalité des camions 3 tonnes du front de l'Est sont assurés par Ford, c'est-à-dire avec sa filiale allemande, qui est une filiale quasi-totalement Ford, avec quand même quelques intérêts allemands, et par Opel, c'est-à-dire General Motors 100%. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, tout est de la même eau. Et ces gens, qui sont leurs partenaires, qu'ils continuent à voir dans le cadre notamment de la Banque des règlements internationaux, comment voulez-vous que cette Banque des règlements internationaux, qui continue à tout verser en or avec de l'or volé allemand, et dont le dernier versement arrive à Bâle en avril 1945, que ces gens qu'on fréquente, que ces gens avec lesquels on dîne, vraiment? Ces gens, on ne les fréquenterait pas? Que fait Olin Dulles, un des héritiers de la dynastie qui a un si grand rôle aux États-Unis, qui a fourni des secrétaires d'État, Hay, etc., qui a le plus gros cabinet d'affaires travaillant avec l'Allemagne de Wall Street, la Dulles, Sullivan and Cromwell. Comment est-ce que Roosevelt décide de cadrer l'avenir de l'Allemagne en envoyant Olin Dulles à Berne pour aller, je dirais, édifier toute l'Europe, c'est vrai, mais édifier particulièrement l'Allemagne.
Si je vous suis bien, la volonté de s'annexer ou plutôt de s'ouvrir un marché immense en Europe, a été déterminante par rapport à la supposée peur du communisme dans le choix de laisser les élites dirigeantes d'avant-guerre en place.
Absolument. Je dirais que le prétexte passe-partout, qui nous sert beaucoup dans l'historiographie française de l'Union soviétique, est un pur prétexte. Le problème est celui de la stabilité des sociétés que n'importe quel lecteur du chef-d'œuvre du roman italien posthume d'ailleurs, c'est-à-dire du Guépard di Lampedusa, a admirablement résumé avec la phrase de Tancrède à son oncle, le prince Salina, qui lui dit « Il faut que tout change pour que tout demeure ». Eh bien, c'est vrai pour les relations économiques et sociales, c'est vrai pour l'appareil de répression, c'est vrai pour l'appareil journalistique, ça n'est même pas vrai, en fait, pour l'épuration, parce que je dirais que c'est ne rien changer pour que rien ne change. Donc, si on reprenait en France la perspective qu'on a abandonnée depuis 30 ans d'une histoire sociale, au sens tout à fait neutre d'une histoire de classe, c'est-à-dire d'une histoire de rapports sociaux, qui nous a réunis dans l'historiographie française pendant longtemps. Moi, je suis d'une génération où les bons maîtres, de droite ou de gauche, de droite ou marxistes, je dirais, observaient un certain consensus sur l'analyse des sociétés et de l'économie. Cette mise à l'écart de l'économie a complètement faussé les choses et par conséquent, nous empêche de voir que la clé, c'est quand même évidemment la clé économique. C'est aussi une clé politique, parce qu'on est mieux servi quand on a certaines orientations économiques, je dirais, par certains auxiliaires politiques. Et à cet égard, je ne donnerai qu'un exemple. Nous disposons sur Roland Delos, qui a été le chef de l'OSS Europe, c'est-à-dire du prédécesseur de la CIA. Et vous savez qu'il est devenu aussi d'abord un des chefs, puis le chef de la CIA sous Eisenhower, puis Kennedy. Eh bien, cet homme, c'était un homme qui, avec son frère aîné, Foster Dulles, avait illustré, je dirais, la partie la plus violemment pro-allemande du capitalisme américain. Parce que ces gens avaient des partenaires allemands. Et que ses partenaires allemands, même criminels de guerre, en voilà un critère, continuaient à être des criminels. Ce n'est pas parce que la main-d'œuvre est esclave, juive ou pas juive, que vous ne continuez pas à faire des affaires. Il va à Berne, où il passe son temps avec des nazis officiels ou des nazis officieux. On a les listes. Et beaucoup d'historiens, je pense en particulier à Uki Goni, qui a fait un chef-d'œuvre avec son analyse du rôle du Vatican dans le sauvetage des criminels, le recyclage des criminels de guerre, mais un Vatican très aidé et très financé par les États-Unis. Goni nous montre, par exemple, dans son ouvrage sur la filière Odessa, que avec une parfaite décontraction, Roland Delos, avec ses collaborateurs allemands ou germano-américains d'ailleurs, nazis ou crypto-nazis, enfin crypto c'est un peu excessif comme remarque, décide de recevoir des émissaires de Schellenberg, c'est-à-dire d'un des plus hauts personnages des instances gouvernementales de Himmler. De Himmler, pas, je veux dire, voilà, là, nous voilà dans le politique, et que ces gens, qui sont accompagnés par des pro-nazis, qui sont par ailleurs des émissaires industriels ou financiers éminents, discutent avec Roland Delos de manière très amicale, et que Roland Delos leur dit « Ah, ben, alors, on va sûrement pas faire revenir en Europe les Juifs, nos partenaires feraient une drôle de tête, et voilà, et on s'aime et on s'adore. » Et vous imaginez, sérieusement, que de telles relations ont présidé à une humeur épuratrice ou punitive ? Bien sûr que non.
Revenons sur la position du général de Gaulle, qui n'est pas exactement un figurant dans l'histoire de France. Donc on aimerait forcément mieux comprendre. Alors, parce que vous avez eu un jugement sévère tout à l'heure. On sait quand même, malgré tout, qu'il a été condamné par les élites vichistes. Il a quand même manifesté une volonté de contenir un petit peu l'influence des États-Unis. Ça aurait pu le conduire, de Gaulle, à s'arc-bouter sur cette question du recyclage des élites vichistes. Or, vous dites qu'il n'en a rien été, finalement.
Écoutez,
est-ce qu'il a quand même pesé pour, d'une certaine façon, pour contenir ce recyclage?
Non. Alors d'abord, de Gaulle, je l'ai dit, c'est un homme de la bourgeoisie, c'est un homme de droite. Il déteste et il méprise la bourgeoisie, mais c'est un conservateur. C'est un conservateur. Finalement, évidemment, il a eu une toute petite minorité de ces extrêmes conservateurs qui est venu avec lui à Londres, mais enfin, ces gens sont restés en relation avec leurs amis de Paris, avec leurs amis de Vichy. On ne bougera rien. Bien entendu, de Gaulle déteste les Américains. Et il est incontestable que de Gaulle a été un homme politique, c'est le seul homme politique de ce niveau à résister aux Américains et à leur diktat. C'est incontestable. Et surtout, de Gaulle n'était pas du tout un progressiste. Alors vous me direz, mais oui, mais quand même. Pour chasser les criminels de guerre, il fallait bien que de Gaulle s'appuyât sur des forces progressistes. Mais non, mais les forces progressistes, de Gaulle ne les aimait pas non plus. C'est-à-dire que de Gaulle était un grand conservateur qui avait le sens de... qui croyait d'ailleurs pouvoir faire des tas de choses tout seul, mais qui avait quand même un très grand sens politique et qui savait très bien qu'il ne pouvait pas faire les choses tout seul. Et finalement, qui avait quelques préceptes essentiels, c'est-à-dire de se faire le moins possible marcher sur les pieds par les Américains, ce qui était délicat. Quand il a pu le faire, il l'a fait. Donc oui, il a fait, je dirais, de ce point de vue, tout ce qu'il a pu. Mais de Gaulle, il a été très conscient que le maintien de la société telle qu'elle était, ça passait par la réconciliation avec les gens qu'il avait vomis pendant un certain nombre d'années, qu'il avait condamné à mort. On s'arrange. Tout s'est arrangé pour des raisons de classe. Et je ne donnerai qu'un exemple. Je donnerai deux exemples. Un exemple que nous avons, évidemment, qui est une véritable caricature de la clé américaine de la non-épuration, qui est, vous avez entièrement raison, la clé, c'est quoi? C'est que les Américains... si les Américains n'avaient pas été là, les classes dirigeantes, évidemment, n'auraient pas pu réaliser leurs objectifs. Sachant ce qu'il en est, d'un côté, bien sûr, de Gaulle s'est arrangé pour virer Boisson et un certain nombre d'autres. De Gaulle discute avec les Américains quand il décide de mettre sous les verrous trois représentants éminents de la collaboration, non seulement de guerre, mais d'avant-guerre. C'est-à-dire Flandin, traître patenté, je l'ai montré, j'entends en termes juridiques, je l'ai montré dans le choix de la défaite et dans Dominique à Vichy, Boisson, qui était prêt à livrer l'Afrique occidentale aux Allemands, puis après aux Américains, parce que plus ils étaient pro-allemands, plus ils sont devenus pro-américains, je ne suis pas la seule à l'avoir noté. C'est un historien assez bien pensant, d'ailleurs britannique, qui l'a noté bien avant moi. Le troisième, Pérouton, qu'aujourd'hui personne ne connaît, mais c'est dommage, les gens perdent beaucoup à ne pas le connaître. Donc il les met sous les verrous. Et il voit débarquer, si j'ose dire, d'une part Churchill, fin 43, qui est là, les Anglais sont là, les Américains sont là, et les représentants de Roosevelt qui viennent lui dire « Ah, mais dites donc, Vous n'allez pas leur faire un procès à Alger ?» Et de Gaulle leur dit « Mais non, ne vous inquiétez pas. La justice ne trouvera pas ce qu'il faut pour les inculper. » Ah bon ? Et évidemment, les Américains et les Anglais insistent. Alors les Américains encore plus que les Anglais. « Nous voulons des garanties écrites que la justice n'y parviendra pas. » Ah, dit de Gaulle, qui est toujours plein d'humour et sarcastique Et intelligent, ah, finit par leur dire De Gaulle. Il le dit aux Américains parce que les Anglais reculent très vite. Il dit aux Américains, vous voulez vraiment que je remplisse un papier dans lequel je dis que, violant la séparation des pouvoirs, le pouvoir français fera pression sur la magistrature, sur le parquet, et obligera le parquet à ne pas constituer leur instruction. Alors, quand même, les conseillers de Roosevelt, sur place, finissent par dire à Roosevelt, bon, calmez-vous, enfin, ils le disent poliment, calmez-vous, ça ira très bien, on sait très bien qu'il ne fera rien.
On a compris votre constat sur l'absence d'ardeur, pour ne pas dire plus, à épurer, donc, après la libération. On se pose forcément la question, quand on entend ce que vous dites, des voix se sont-elles élevées à l'époque pour dénoncer cette absence de châtiment pour les cadres d'un État failli?
Mais bien sûr, des protestations, il y en a eu beaucoup, énormément, y compris d'ailleurs dans des milieux qui vont évidemment très au-delà des rouges, qui n'auraient comme projet que de trucider les bonnes personnes et les gens très bien.
Qui s'indigne à l'époque?
Tous les résistants, je dirais même tardifs, bien sûr, s'indignent. Les régions s'indignent. Parce que, évidemment, on l'a oublié, parce que mes collègues qui pleurent beaucoup sur l'épuration sauvage, à laquelle ils inventent une chronologie, mes collègues ne parlent pas des dossiers de guerre. Mais enfin, revenons aux choses sérieuses. On a en France 3000 policiers de ce qu'on appelle la Gestapo. On a 75 000 juifs qui ont été livrés aux Allemands. 75 000 morts, pardon. On a, ce sont des estimations de certains historiens français sérieux, perdu au moins 40 à 60 000 fusillés. Même si la recension n'a pas été complète. On a des dizaines de milliers de victimes. On a même des centaines de milliers de victimes. Par conséquent, il y a des gens en France, beaucoup de gens qui se sont très mal conduits pendant la guerre. Beaucoup. Et quand je dis qu'ils se sont mal conduits, ça va de la dame qu'on accuse aujourd'hui, enfin, ou qu'on excuse aujourd'hui d'avoir simplement entretenu des relations horizontales avec les soldats allemands, mais les soldats allemands n'entretenaient pas, sauf éventuellement évidemment avec les prostituées, à qui personne ne s'en est pris en règle générale. Les Allemands n'entretenaient pas des relations sexuelles avec des dames dont ils ne faisaient rien. C'est-à-dire que moi, je cite le cas, par exemple, d'une dame qui a provoqué beaucoup d'émotions chez une de mes collègues, Jeanne Devineau. Je ne sais pas d'ailleurs si elle avait été tondue, mais elle a fini par passer devant une instance. Mais enfin, des gens importants qui ont des responsabilités éminentes dans le cours de la guerre, qui ont dénoncé, ce sont des dizaines, des centaines de milliers de Français. Or, on en connaissait certains dans les régions. On connaissait les plus importants. Il y avait des noms vomis. Il y a eu des protestations énormes, ne serait-ce que dans l'organisation du procès de Pétain. Mais que valent les protestations de la base? La période actuelle nous le dit. Que valent les protestations de la base quand ceux qui détiennent l'économie, la presse, l'argent, la politique n'ont pas quitté les affaires? De Gaulle gracie, et il gracie sans arrêt. Il gracie tellement qu'un certain nombre de préfets, dont certains ont été des gaullistes peut-être tardifs, mais enfin certains un peu moins tardifs que d'autres, et sensibles au rapport de force, lui écrivent un peu désespérés en disant « mais nous arrivons à un degré tel que vraiment c'est une provocation pour les régions ». C'est-à-dire que j'ai cité l'exemple spectaculaire, mais pas du tout rare, l'exemple courant de la cour de Bordeaux qui a renvoyé immédiatement dans les régions des gens qui avaient ravagé les régions. qui avait accompagné les Allemands, les forces répressives allemandes, à toutes les étapes, qui avait fui avec les Allemands et qui était revenu.
Ces gens-là n'ont pas été inquiétés.
Non, quand ils ont été inquiétés, parfois, ils ont fait un petit peu de prison, ils ont eu un procès, ils ont parfois été condamnés à mort. Ordonnance du 28 novembre 1944, c'est-à-dire dessaisissement de la cour. Écoutez, on peut donner un exemple, je dirais que c'est presque un des exemples les plus intéressants. C'est l'exemple du procureur général de Paris, qui était un avocat. Et qui était un avocat pro-résistant incontestablement. Je ne sais pas depuis quand, mais c'était un avocat résistant. Il se fait embaucher, manifestement d'ailleurs dans l'interstice, dans la semaine où le communiste Villard, Marcel Villard, le grand avocat Marcel Villard, a été, comme prévu d'ailleurs par les textes, par les accords avec les gaullistes, a été en charge de la justice, juste à la libération, il a été nommé procureur général de Paris. On ne peut pas imaginer, mais moi je montre comment ça s'est organisé, ce qu'il a couvert, cet homme, qui savait tout. Certes, qui était avocat et qui était habitué à défendre les coupables les plus abominables, c'était son métier, mais qui avait été nommé par Villard parce qu'on pensait qu'il assurerait notamment sérieusement l'épuration économique. Il en a même tellement avalé qu'en 1949, comme je le montre, écœuré, manifestement dégoûté par les pressions que Robert Schuman, le grand Européen, là, notre Saint-Père à tous, Robert Schuman fait pression sur lui comme d'habitude, comme tous les ministres antérieurs, et il veut lui faire indemniser une grosse actionnaire américaine, la principale actionnaire américaine du petit Parisien, qui s'est vendue à l'Allemagne, et elle a touché tout, évidemment tous les dividendes. Il est tellement écœuré, je pense qu'il a été écœuré par une autre affaire, qu'il démissionne. Mais de 1944 à 1949, il a tout couvert. Il a même couvert l'affaire Hardy.
Ah oui.
Et cette affaire
à savoir,
Hardy,
c'est-à-dire le dénonciateur de Jean Moulin.
Et qui a donné lieu à des ordres et à un accord entre Barbie, d'une part, et les post-gaullistes Freinet et Bénouville pour qu'ils soient arrêtés et que pour que leurs hommes, eux, soient totalement protégés par la Gestapo et des incursions de la Gestapo. Il l'a couvert. Il a montré en 1947 à quel point il était grave de le couvrir. Mais il a attendu. C'est tout à son honneur. 1949, non pas pour le dénoncer publiquement, mais pour dire « ça y est, je soupe, j'ai soupé, je m'en vais ».
Alors, à rebours de tout le tableau que vous êtes en train de nous livrer aujourd'hui, la période de l'épuration française est souvent réduite aux images de femmes tondues, vous y faisiez allusion tout à l'heure à la libération, hein, donc tondue pour avoir eu des relations sexuelles avec les Allemands. Vous semblez soutenir que ces incidents, aussi terribles qu'ils aient pu être, hein, ces images sont effectivement insoutenables,
bien sûr.
ont finalement été marginales.
D'abord, elles ont été marginales, et ce qui est le plus intéressant, je dirais, que c'est leur suivi historique. Bien sûr qu'elles ont été marginales. Si vous voulez, le problème de l'histoire du genre, c'est que parfois, l'histoire du genre s'en va non seulement isoler un objet, ce qui est logique, puisque son objet, ça a commencé par le genre féminin, mais s'en va isoler un objet et mettre les projecteurs sur ce seul objet. Or, bien entendu, il y a des femmes qui ont été poursuivies, mes collègues sont arrivés à 20 000... Je vous rappelle quand même, il y a près de 40 000 villages en France. Et villes et villages.
On estime à 20 000 les femmes tondues pour la libération.
Voilà. D'accord. Alors, leurs cheveux ont été tondus. Certes, c'est une très vilaine vision, mais comment peut-on nous administrer une telle vision en réduisant l'épuration à cela et en laissant entendre que par cela, on a la démonstration que l'épuration a été sauvage, féroce, injuste, etc. Car regardez,
alors que les fonctionnaires les ouvrages, ont été châtiés, les
voilà.
criminels de
Et puis surtout, financiers. Jamais les choses ne sont mises en relation avec les œuvres de ces dames. Donc bien entendu, il a pu y avoir des injustices. Hein. Moi, je n'ai pas vu les 20 000 dossiers, j'en ai vu beaucoup, bien entendu. Mais enfin, lui-même d'ailleurs le reconnaît, beaucoup de ces femmes ont été prévenues au plus tard, dès 1943, que leur affichage avec les Allemands coûterait. Et finalement, ce sont des femmes qui ont provoqué l'indignation de tout un village, de tout un quartier de ville qui était connu, qui fréquentait les Allemands. Alors, je voudrais rappeler quelque chose qui est oublié aujourd'hui, où la cible est avant tout, la Résistance rouge. C'est que nous avons perdu, nous historiens, en tendance, nous avons perdu ce qui nous avait été affecté, je dirais, comme mission civique au lendemain de la libération. Au lendemain de la libération, nous avions pour objectif, moi évidemment, j'étais pas née, mais enfin, quand je suis devenue professeure dans les années 70, nous avions pour mission de former nos jeunes élèves ou nos plus grands élèves dans le respect de la résistance. Dans le respect de ceux qui ne s'étaient pas couchés devant l'ennemi qui avait violé les frontières, dans le respect de ceux qui s'étaient battus, qui avaient tout sacrifié. Et encore, ne savions-nous pas comment les survivants avaient été traités en matière, de dédommagement. Et je ne parle naturellement pas de dédommagement matériel. Or, aujourd'hui, c'est fini, ça. La résistance active, la résistance intérieure à majorité FTP est transformée en bande de malfrats et de canailles. Moins avec certains échos
pas
récents.
Pas dans les programmes scolaires.
Non, mais dans la présentation des choses et dans beaucoup d'ouvrages d'historiens.
Le rôle de la résistance intérieure est minoré en ce moment, de plus en plus.
D'ailleurs, il n'est que de lire un de mes collègues qui passe pour la référence absolue en matière de libération. Vous lisez les travaux sur la libération de la France. On vous explique que la libération, c'est un petit bonus. Je dirais d'ailleurs que le petit bonus des armées américaines triomphantes, c'est un argumentaire venant de la gauche, parce qu'il ne s'agit pas d'historiens de droite, qui a beaucoup servi la droite, parce que la droite s'est engouffrée dans cette idée que la résistance n'avait servi à rien sur le plan militaire, pour dire non seulement elle n'a servi à rien, mais elle n'a servi finalement qu'à tenter d'éliminer les notaires, les châtelains, les gendarmes, parce qu'ils étaient notaires, châtelains et gendarmes. Ce qui est faux. On a les sources qui établissent le contraire. Donc, nous en sommes où ? Nous avons une vichisto-résistance qui a tout envahi, un Vichy, finalement, assez débonnaire, des résistants qui sont des canailles, sauf, je le concède, dans certains ouvrages plus récents, où on remet plus en valeur les résistants. Mais de ce qui est en rapport avec la violence initiale de certains gestes, y compris les femmes tendues, avec les pratiques de l'occupation, qui sont des pratiques horribles. Vous comprenez, il faut bien le savoir. Moi, j'ai une grand-mère qui a été sauvée avec ses deux filles parce qu'il y a eu des bons flics qui sont venus à Belleville dire « Demain, on passe, restez pas chez vous ». Parce qu'il y en a eu, mais il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu.
Une grand-mère juive.
Oui, mais tous mes grands-parents étaient juifs, et ma grand-mère, mon grand-père a fini à Auschwitz, mais ma grand-mère a été sauvée comme ça. Bon, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est la lourdeur du dossier d'épuration. Lisez à peu près tous les ouvrages aujourd'hui, Les accusations étaient vagues. Ah, ben mes collègues devraient se tourner sur les dossiers de 40-44, ils ne trouveraient pas les accusations vagues. Les dossiers sont monstrueux. Simplement, les personnes qui sont traduites en justice, comment sont-elles acquittées ? Tout ce qui est le sérieux de l'instruction, car le sérieux de l'instruction existe, on en a des bons documents dans l'instruction, outre les documents de 40-44, mais les documents d'instruction ayant été balayés, comment sont-ils acquittés ? Ben parce que vous avez des faux résistants ou des résistants tardifs ou des résistants compréhensifs qui viennent dire « Mais ces gens ont été très bien, ils sont résistants depuis 41, 42. » Et sur quoi se fait l'acquittement ? Sur cette base. Lisez ce que raconte le procureur général de Paris. Vous verrez à quel point des dossiers sérieux ont été totalement faussés pour permettre de faire en sorte que rien ne change. Et rien n'a changé. Et ce sont les résistants vivants qui ont été bafoués. Je pense que le lecteur qui lira les dossiers que je rapporte sur les magistrats racontant comment tel militant cabossé et passé à l'hôpital avant d'ailleurs de passer un certain nombre de mois ou d'années en déportation, mais par chance pour lui de revenir, en voyant comment un magistrat peut traiter les dommages qui avaient été occasionnés par des flics, lesquels flics ont été tous maintenus étaient, et ont même été maintenus dans le poste où ils étaient. Regardez par exemple les dossiers de Clermont-Ferrand. On a presque, quand on les lit, envie de se pincer.
Donc, Annie Lacroix-Ré, je terminerai par une question à la fois grave et cruelle. Quelles sont les conséquences de cette non-épuration sur notre vie actuelle en France ? Notre vie politique, notre vie institutionnelle, notre vie sociale ?
Notre vie sociale, économique, institutionnelle, journalistique, évidemment, a été marquée par la continuité, malgré quelques petits changements, car il a fallu tout de même tenir compte d'une petite modification du rapport de force. Et c'est vrai que ce qu'on appelait autrefois les forces démocratiques avait une puissance qu'elles ont perdue, mais pour l'essentiel, tout a été comme devant. Les plus grands criminels ont été, je dirais, d'abord sont sortis de prison extrêmement tôt, ont été disculpés de manière spectaculaire, soit tout de suite, soit quand les instructions duraient en 1947-48. Il est particulièrement intéressant de noter que les grandes instructions financières se sont terminées en 1947-1948. Et on a quand même entendu des magistrats qui étaient d'ailleurs au service des banques, et il faut le dire, mais ça, évidemment ce que j'avance est démontré, qui expliquait que telle banque qui avait, à l'été 1940, vendu ses succursales à l'Allemagne à l'été 1940 en Alsace, avait fait preuve de sentiments hautement français. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons gardé les mêmes journalistes, que nous avons gardé les mêmes financiers, que nous avons gardé les mêmes politiques. Et ça vous explique que Tixier-Vignancourt puisse, au début des années 1960, être candidat aux élections, que un parti qui se prétend aujourd'hui républicain ait pu être constitué quasi immédiatement, de fait, des débris du vichisme dont certains avaient été pris les armes à la main dans les derniers coins libérés de France sur la zone atlantique. Et ça vous explique évidemment parce que je ne parle pas de la non-épuration économique, évidemment, tout à fait caricaturale, mais ça vous explique à quel point les mêmes qui étaient là avant sont restés après. Et ça vous dit que l'appareil de répression, dont la continuité est remarquable, ma collègue Virginie Santsico est une de celles à la voix à avoir. Il n'y en a pas beaucoup qui ont montré la continuité de la magistrature. Elle le montre, elle. elle le montre. Elle montre comment c'est pareil avant la guerre, c'est pareil pendant. Bon, elle pourrait aller un peu plus loin, c'est pareil après. C'est-à-dire que toutes les forces de répression sont là.
C'est vrai que l'essentiel de Vichy restait en place.
Mais bien sûr, nous avons eu une magistrature vichiste jusqu'en 1970 et pour les plus jeunes jusqu'au début des années 80. Ça ne souffre aucune contradiction. Et je dois dire, comme je me suis beaucoup inspirée de Farsi, j'ai pu observer que plus on était allé loin, plus on a fini jeune à la Cour de cassation.
Annie Lacroix-Riz, merci, merci infiniment d'être venue nous voir à QG. Je rappelle le titre du livre que vous venez de sortir fin août, « La non-épuration en France de 1943 jusqu'aux années 50 chez Armand Collin ». Je rappelle que QG est un média entièrement indépendant, un média audiovisuel en ligne. Nous ne vivons que de votre financement, nous ne sommes financés ni par le CAC 40, ni par l'État français. Si vous souhaitez nous rejoindre, si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez dès aujourd'hui trouver nos formules sur le site qg.media, ainsi que nos programmes, notre équipe, nos soutiens. Je vous dis à tous, à très bientôt. Merci.